السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، nous avons pu voir les mérites des quatre paroles qui sont les plus aimées d'Allah, subhanahu wa ta'ala, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nous avons pu voir les mérites spécifiques à la parole de l'islam, du tawhid, de l'unicité d'Allah, la ilaha illallah, le fondement, la base de l'islam, sans laquelle personne ne peut être musulman. Et nous avons compris que si cette parole a autant de mérite chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bien en raison de son sens et de ce qu'elle signifie. Ainsi, il est un devoir et il incombe à chaque musulman, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, d'un riche ou d'un pauvre, d'un bien portant ou d'un malade, d'un faible ou d'un fort, d'un grand ou d'un petit, de comprendre le sens de cette parole et de savoir que les bénéfices de cette parole ne peuvent être tirés que par une personne ayant compris son sens et l'ayant mise en application dans sa vie. Vous entendez souvent des récits, par exemple, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquels il nous enseigne que quand la personne dit « La ilaha illallah » peu avant la mort, au point où cette parole est la dernière parole prononcée par la personne juste avant de mourir, elle entre au paradis. Et d'autres récits encore, où l'on parle de la prononciation de la parole « La ilaha illallah » qui fait gagner à la personne l'entrée au paradis, ou qui fait que la personne se voit sauvée de l'enfer. Mais toutes ces choses-là sont valables pour la personne qui, certes, prononcera la parole « La ilaha illallah » mais tout en appliquant ce qu'elle signifie, tout en se conformant à ses implications. Autrement, une personne qui ne ferait que prononcer cette parole tout en négligeant ou ignorant son sens serait à l'image d'une personne qui tient un propos dans un langage étranger qui n'est pas compris et donc qui est inutile pour l'auditeur de cette personne. Ainsi, les musulmans doivent prendre conscience de l'importance extrême du sens et de la compréhension de la parole « La ilaha illallah ». Ils doivent comprendre que si Allah subhanahu wa ta'ala en a fait le premier pilier de l'islam, ce n'est pas anodin. Ils doivent comprendre que si Allah subhanahu wa ta'ala en a fait le but pour lequel tous les messagers sans exception ont été envoyés par Allah sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas anodin. Ils doivent comprendre que si on ne peut être musulman sans prononcer cette parole et l'appliquer, ce n'est pas anodin. C'est donc une obligation que d'apprendre à connaître le sens de cette parole. C'est pour cette raison que les salafs, les pieux prédécesseurs, car le terme salaf signifie les prédécesseurs, ceux qui nous ont précédés et qui sont notre exemple dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ont été interrogés très souvent concernant cette parole, la ilaha illallah, et le fait qu'elle soit la clé de l'entrée au paradis. À titre d'exemple, Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, a été interrogé. Il lui fut dit « Inna nasan yaqulun man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah » Des gens disent « Quiconque prononce la ilaha illallah entrera au paradis. » Et qu'est-ce qu'il répondit d'après vous? Il dit « Qala la man qala la ilaha illallah fa adda haqqaha wa fardaha dakhala al-jannah » Il répondit « Quiconque dit « La ilaha illallah » tout en s'acquittant de ses devoirs vis-à-vis de cette parole et de ce qu'elle implique, entrera au paradis. Il a donc montré qu'il ne s'agit pas que de la simple prononciation de cette parole, mais plutôt aussi de l'application des sens découlant de cette parole. D'ailleurs, Al-Hassan, rahimahullah, a dit au nommé Al-Farazdaq, alors que cet homme était en train d'enterrer sa mère, il dit à cet homme, « Et qu'as-tu préparé pour ce jour » C'est-à-dire pour la mort. Et donc, ce qui va en découler comme rencontre d'Allah, jugement, le jour dernier. Il répondit, « قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً J'ai préparé l'attestation « La ilaha illallah » depuis 70 ans. Al-Hassan lui a dit « Ni'ma al-uddah, quelle merveilleuse chose que tu as préparée. Lakin, la ilaha illallah shurutan. Mais cette parole « La ilaha illallah » se prépare avec ses conditions. » Il fut dit au dénommé Wahb ibn Munabbih, et tous les récits que je vous relate sont évoqués par l'imam ibn Rajab rahimahullah dans son récit, dans son livre intitulé Kalimatul Ikhlas. Wahb ibn Munabbih, qu'Allah lui fasse miséricorde, un des pieux prédécesseurs, fut interrogé. Il lui fut dit, Alaysa miftahul jannati la ilaha illallah, n'est-ce pas que la ilaha illallah est la clé de l'entrée au paradis? Il répondit, Qala bala. Si, walakin ma min miftahin illa lahu asnan, mais il n'est pas une clé sans qu'elle n'ait de dents. Fa in ataita bi miftahin laysa lahu asnan. Fa in ataita bi miftahin lahu asnan futiha lak. Ainsi, si tu utilises une clé ayant des dents, la porte s'ouvrira à toi. Wa illa lam yuftah. Sinon, la porte ne s'ouvrira pas. Ainsi, l'on voit que toute clé, pour pouvoir ouvrir la porte, doit avoir les dents. Une clé vierge est certes une clé, mais elle ne permet pas d'ouvrir la porte. Il en est de même pour la parole « La ilaha illallah ». Elle est la clé du paradis, comme on le voit dans les récits. Cependant, il y a des conditions qui ont été imagées comme étant les dents pour une clé. « Yushiru bil asnani » Ila shurut ila ilaha illallah. Il insinuait par la parole les dents pour une clé, les conditions de la parole la ilaha illallah. Et quand nous disons que cette parole a des conditions, la condition est une chose dont l'absence entraîne l'inexistence de la chose qui est voulue. Et dont la présence n'entraîne pas forcément la présence de la chose voulue. Ainsi, si une condition est absente, la chose conditionnée l'est aussi forcément. Si une condition est présente, pour que la chose conditionnée le soit aussi, il faudra réunir toutes les conditions et ne pas se contenter d'une seule ou de plusieurs sans toutes les réunir. En d'autres termes, lorsque l'on dit « La ilaha illallah », si l'on ne réunit pas toutes les conditions que sont les implications de cette parole, l'essence qui en découle, on ne peut tirer profit de cette parole. Et si l'on applique une parmi les conditions tout en délaissant les autres, on ne peut tirer profit de cette parole. Quand est-ce que l'on peut vraiment tirer profit de la parole « La ilaha illallah » Subhanahu wa ta'ala, comme on le voit dans les récits, celui dont la dernière parole est « La ilaha illallah » entrera au paradis. Quiconque dit « La ilaha illallah » sera protégé du feu. Et d'autres parmi les récits, quand est-ce qu'on en profite de ces récits-là? Quand est-ce que ces récits-là nous concernent? La réponse, lorsque la personne prononçant la parole « La ilaha illallah » aura réuni toutes les conditions de cette parole. Et les conditions, ce sont ce qu'implique cette parole. Une question pourrait se poser. Comment sait-on que la parole « La ilaha illallah » a des conditions qui doivent impérativement être réunies? La réponse, c'est avec l'étude que les grands savants de l'islam ont fait des textes du Coran et de la Sunna, ils en ont déduit qu'à chaque fois qu'on fait la mention de la parole « La ilaha illallah », il y a des conditions qui sont citées. Et c'est ce qu'ils ont compilé pour faciliter l'accès à la science aux savants, aux gens de la masse, pardon, n'étant pas dans la capacité d'extraire des textes d'eux-mêmes les leçons à tirer et les conclusions. Ainsi, de par cette étude que l'on appelle en arabe al-istiqara, le fait d'étudier les textes et d'en déduire les conclusions, les savants ont réuni les conditions de la parole « La ilaha illallah » au nombre de 7. C'est ce qui va faire l'objet de notre étude, incha'Allah. La première, nous allons donc les citer de manière générale, puis entrer dans chacune d'entre elles en détail. La première condition de la parole « La ilaha illallah » c'est « Al-ilm bima'naha nafyan wa ithbatan al-munafi lil-jahl » La connaissance du sens de cette parole qui comporte une négation et une affirmation. La connaissance qui est le contraire de l'ignorance. Deuxièmement, al-yaqin al-munafi lil-shakk wal-rayb, la certitude qui contredit le doute. Troisièmement, al-ikhlas al-munafi lil-shirk wal-riya, la sincérité qui contredit le polythéisme et l'ostentation. Quatrièmement, al-sidq al-munafi lil-kadhib, la véracité qui contredit le mensonge. Cinquièmement, al-mahabbatul munafiyatul lil-burdi wal-kurh, l'amour qui contredit l'aversion et la détestation. Sixièmement, al-inqiyadul munafi lit-tark, la soumission qui contredit l'abandon. Septièmement, al-qaboul al-munafi lir-radd, l'acceptation qui contredit le refus. Ce sont donc les 7 conditions de la parole « La ilaha illallah » et nous allons à présent entrer dans les détails de chacune d'entre elles. Quant à la première condition de cette noble parole « La ilaha illallah », c'est comme nous l'avons dit, la science ou la connaissance du sens voulu de cette parole. C'est la première condition. Chacun doit comprendre que cette parole comporte une négation et une affirmation. Et il doit comprendre ce qui est nié et ce qui est affirmé lors de la prononciation de cette parole. Il est étonnant de constater que beaucoup de gens prononçant la parole « La ilaha illallah » ignorent de cette parole ce que connaissaient les polythéistes de Quraysh qui pourtant n'ont pas adhéré à l'islam. La ilaha illallah, son apprentissage et sa connaissance est un devoir qui incombe à tout un chacun. Nous devons donc comprendre que cette parole comporte 2 choses. Ces 2 choses ont été appelées les 2 piliers de la parole « La ilaha illallah ». Le premier est la négation. Le second est l'affirmation. La négation est générale. L'affirmation, elle, est spécifique. Qu'est-ce que cela veut dire? La personne qui prononce la parole « La ilaha illallah » doit comprendre que lorsqu'elle dit « La ilaha » traduit littéralement par « nulle divinité » et dont le sens voulu est « nulle divinité ne mérite réellement l'adoration ». Voilà la négation. « Nulle divinité ne mérite réellement l'adoration ». C'est donc une négation qui est générale. Tout droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il s'agisse d'un prophète, d'un ange, d'un objet inerte, d'une créature marchante ou rampante, peu importe de quoi il s'agit, tant qu'il s'agit d'autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il est interdit de vouer le culte et d'accorder une quelconque forme d'adoration à cet autre, peu importe de qui il s'agit, pas même les prophètes, pas même le sceau des prophètes, Muhammad alayhi salatu wa salam. Car l'adoration est le droit réservé exclusivement à Allah. Subhanahu wa ta'ala, il est l'objectif pour lequel il nous a créés. Accorder un égal à Allah Azza wa Jal dans une chose pour laquelle il nous a créés, qui lui revient de droit qu'est l'adoration, est le pire des crimes, la pire des injustices, le plus grand péché, le plus lourd fardeau, l'erreur la plus monumentale. Ash-shirku billah, l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, la personne qui dit la ilaha illallah dans la négation contenue dans les propos la ilaha, voulant dire littéralement nulle divinité, mais dans le sens réel religieux, nulle divinité ne mérite réellement l'adoration. La personne qui prononce ces paroles a donc rejeté de manière catégorique, globale et générale le droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah. Et lorsqu'elle dit illallah, sauf Allah, c'est-à-dire qu'elle a affirmé spécifiquement l'adoration, le droit à l'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà le sens de la parole la ilaha illallah. Comment le sait-on? C'est Allah lui-même subhanahu wa ta'ala qui nous l'enseigne. D'ailleurs, lorsque le prophète alayhi salatu wa salam a reçu la révélation et s'est vu dans l'obligation de transmettre aux gens le devoir pour lequel ils ont été créés, à savoir l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est allé circuler dans les marchés où il disait aux gens ce que rapporte l'imam al-Bukhari rahimahullah, ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, ô vous les gens, dites la ilaha illallah, prononcez cette parole, vous récolterez le succès. Comment fut la réponse des gens de Quraysh au prophète alayhi salatu wassalam, ce dont Allah nous informe dans sourate Sad lorsqu'il dit أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَاهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Va-t-il réduire toutes les divinités pour une seule? Voici là quelque chose d'étonnant. Ainsi, l'on voit très explicitement que les gens de Quraysh avaient parfaitement saisi et compris que la ilaha illallah voulait dire rejeter le droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah et ne l'affirmer qu'à Allah seul et exclusivement, subhanahu wa ta'ala. Nombreux sont les versets qui nous donnent le sens de cette parole, parmi lesquels le prophète Ibrahim, alayhi salam, a appelé son père et son peuple à l'adoration d'Allah. Et que leur a-t-il dit? Il leur a dit « Inni bara'um mimma ta'budun » « Je me désavoue totalement de ce que vous adorez. » « Illa alladhi fatarani » « À l'exception de celui qui m'a créé. » Ainsi l'on voit clairement le sens de la ilaha illallah à travers la parole d'Ibrahim alayhi salam. « Je me désavoue de tout ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé. » Si quelqu'un te disait « Qu'est-ce que veut dire la ilaha illallah ?» et que tu lui répondais « Je me désavoue de tout ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé », alors tu aurais répondu d'une réponse juste et correcte. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in » dans le sens de sourate al-Fatiha. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons l'aide, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela veut dire? Iyyaka na'budu, nous n'adorons nul autre que toi. Nous n'adorons nul autre que toi. Pour cela, dans la langue arabe, puis quand c'est traduit littéralement, la phrase est la suivante: c'est toi que nous adorons. Alors qu'à la base, on dirait en langue arabe na'buduk, nous t'adorons. C'est-à-dire que si je le traduisais, bien qu'en français ça ne se dise pas comme cela, nous adorons toi. C'est-à-dire qu'en arabe, à la base, c'est comme ça que ça se dit. Nous adorons toi, bien qu'en français on ne parle pas comme cela. Que l'on soit bien clair. Cependant, le fait qu'Allah Azza wa Jal ait dit « Iyaka na'bud » c'est toi que nous adorons. Il a donc fait passer le verbe de l'adoration avant, après. Il a parlé d'Allah Azza wa Jal, puis il a parlé du verbe adorer. C'est pour dire que le seul qui est adoré et qui passe devant tout, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce qu'Allah a dit dans ce verset. Ainsi, les preuves que la connaissance du sens de cette parole et qu'elle contient une négation et une affirmation est une condition. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Muhammad, le verset 19, Allah Azza wa Jal, s'adressant à son noble messager, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, « Fa'alam annahu la ilaha illallah » Sache donc, un impératif, un ordre de savoir, et l'on ne peut savoir qu'en apprenant. C'est donc une science qu'il faut obligatoirement acquérir. Qu'est-ce qu'il faut acquérir comme savoir de façon obligatoire ?« Annahu la ilaha illallah » Que certes, nulle autre divinité qu'Allah ne mérite réellement l'adoration. Voilà le sens de la parole « La ilaha illallah » et la preuve de la conditionnalité de la connaissance du sens de cette parole. L'ordre donné par Allah à son prophète alayhi salam en premier lieu et de surcroît à l'ensemble des croyants de connaître cette parole et donc son sens. Également, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surat Az-Zukhruf, les ornements, verset 86, « Illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun wa la yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'ata illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun » Et ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne possèdent pas la capacité d'intercéder. Ensuite, il dit « Sauf celui qui témoigne, qui atteste de la vérité, ceux qui attestent de la vérité en pleine connaissance de cause. » Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous dit « Illa », on appelle cela en arabe « Istithna munqati'a ». Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit « Sauf », cela veut dire que, pour vous résumer, tous ceux qui sont adorés en dehors d'Allah n'ont aucunement le pouvoir d'intercéder auprès d'Allah le jour dernier en la faveur de ceux pour qui ils voudraient intercéder et que en réalité les seuls à pouvoir intercéder par la permission d'Allah le jour dernier seront ceux qui ont attesté de la vérité en pleine connaissance de cause. Les savants expliquant ce verset ont dit la vérité désignée ici est l'attestation la ilaha illallah. En pleine connaissance de cause, wa hum ya'lamuna ay ya'lamuna ma'na ma shahidu bihi fi qulubihim wa alsinatihim. C'est-à-dire qu'ils prononcent cette attestation tout en sachant de leur cœur ce que leur langue ont prononcé. Ainsi, ce qui a pu faire bénéficier à ces gens-là de pouvoir intercéder par la permission d'Allah le jour dernier, ce n'est pas que la prononciation de cette parole, mais c'est le fait qu'ils la prononçaient en connaissance du sens de cette parole. Ce qui veut dire que quiconque la prononce sans connaître son sens n'est pas concerné par ce bénéfice évoqué dans le verset. Donc, connaître le sens de cette parole est une condition inévitable. Parmi les preuves également de la conditionnalité de la connaissance du sens de cette parole, ce que rapporte l'imam muslim d'après Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Quiconque meurt tout en sachant que nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté Allah entrera au paradis. Et l'imam muslim, rahimahullah, a compilé dans un ordre bien précis les récits authentiques du messager, alayhi salatu wassalam, puis après lui est venu l'imam An-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, pour donner des titres à chaque chapitre de cet écrit. Et le titre donné à l'imam An-Nawawi dans le chapitre du recueil de l'imam Muslim où est contenu ce récit, quiconque meurt tout en sachant que nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté Allah entrera au paradis, est le suivant. L'imam An-Nawawi a dit Bab, chapitre الدليل على أن من مات على التوحيد أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. Quiconque, pardon, le chapitre, la preuve que quiconque meurt sur le monothéisme entrera au paradis inévitablement. Il entrera donc au paradis inévitablement. Ainsi, l'imam al-Muslim, pardon, rahimahullah, nous cite ce récit pour nous montrer que connaître le sens de la ilaha illallah est une condition pour en profiter. Vous avez entendu sûrement le récit où le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah » Quiconque aura pour dernière parole « La ilaha illallah » entrera au paradis. Eh bien, on voit ici qu'il ne s'agit pas que de la prononciation de la parole « La ilaha illallah » car ce second hadith qui fait l'objet de notre étude marque une condition. Quiconque meurt tout en sachant, tout en connaissant que nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté Allah, entrera au paradis. Donc, en conciliant les deux récits, l'on comprend du premier récit dont la portée est générale que ce qui est voulu, c'est mourir avec la parole « La ilaha illallah » mais en la connaissant. Et c'est ainsi que les savants ont agi en réunissant tous les textes afin d'en conclure que la parole « La ilaha illallah » est bénéfique à la personne qui la prononce dès lors que cette dernière va réunir toutes les conditions de cette parole. La deuxième condition pour la parole « La ilaha illallah » c'est, comme nous l'avions dit, la certitude qui contredit le doute. La certitude qui contredit le doute. Qu'est-ce que cela veut dire? La personne qui prononce la parole « La ilaha illallah » doit être pleinement convaincue que nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne qui prononcerait la parole « La ilaha illallah » et qui serait dans le doute de la réalité de cette parole et qui se dirait qu'il est peut-être possible de vouer le culte ou l'adoration à un autre qu'Allah, aura de par cette conviction annulé la parole « La ilaha illallah » car elle n'a pas rempli la condition qu'est la certitude. Le porteur du monothéisme, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, doit être pleinement convaincu que le seul à avoir le droit à l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et que toute forme d'adoration vouée à un autre qu'Allah n'a aucun autre nom que le polythéisme, ash-shirk, l'association accordée, attribuée à un égal à Allah, et que cet agissement est le contraire de l'essence de l'islam, qu'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, en décrivant les croyants comme étant les véridiques, nous dit إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Dans le sens du verset, les croyants sont seulement ceux qui ont eu la foi en Allah et en son messager, puis qui n'ont point été troublés par le doute, et qui ont lutté avec leurs biens et leurs personnes dans la voie d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. L'on remarque qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit bien « ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا » puis qui n'ont point été troublés par le doute. Ainsi, le doute dans la croyance, al-aqida, la croyance en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'a pas de place et est inacceptable. De même, l'imam muslim, rahimahullah, rapporte d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agré, que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah » لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. Dans le sens du hadith, le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, a dit « J'atteste que nulle divinité ne mérite réellement l'adoration, excepté Allah. Et j'atteste que je suis le messager d'Allah. Aucun serviteur ne rencontrera Allah avec ces deux attestations » sans être touché par le doute, sans qu'il n'entre au paradis. L'on voit donc ici que le prophète, alayhi salatu wassalam, a conditionné pour l'entrée au paradis, quand on prononce cette parole, le fait de ne pas être troublé par le doute. Ainsi, le doute quant à la parole « La ilaha illallah » est un annulatif, entraîne l'inexistence, l'impossibilité de tirer profit de la parole « La ilaha illallah ». Mais j'aimerais attirer l'attention sur une maladie qui a touché beaucoup de gens. On l'appelle « Al-waswasa », les insufflations de shaitan. Très souvent, des gens disent « J'ai des doutes, j'ai trop de doutes, je ne sais plus si je suis sincère, je ne sais plus si je suis véridique ». Au point de ne plus trouver le sommeil, au point d'abandonner les adorations complètement, au point d'être touché par les soucis, les peines. Ceci n'est pas notre sujet. Car en réalité, c'est ce que l'on appelle « al-wasawis », les insufflations de shaitan. La personne doit dire « a'udhu billahi minash shaitan ar-rajim » et repousser cela autant que possible. Après cette parenthèse, la preuve suivante, l'imam muslim, rahimahullah, rapporte que, d'après Abu Huraira, pardon, radiyallahu anhu, que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, « Man laqita min wara'i hadha al-ha'it, yashhadu an la ilaha illallah, mustayqinan biha qalbuh, fabashirhu bil jannah. » Quiconque tu rencontreras derrière ce jardin, il s'adressait ici au compagnon Abu Huraira, qu'Allah l'agré. Car dans l'histoire de ce récit qui est plus long en réalité, Abu Huraira était apeuré car il était à la recherche du prophète alayhi salatu wassalam qu'il ne trouvait pas. Puis, il a trouvé un jardin dans lequel il a réussi à s'introduire. Après être entré dans ce jardin, il vit le prophète alayhi salatu wassalam qui lui donna cette information. Quiconque tu rencontreras derrière ce jardin qui attestera que nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté Allah, véridiquement de son cœur, annonce-lui la bonne nouvelle qu'il entrera au paradis. Ainsi, le prophète alayhi salatu wassalam a clairement dit ici au compagnon Abu Huraira, qu'Allah l'agré, que la personne qui prononcera la parole « La ilaha illallah » et qui le fera avec une conviction pleine du cœur, entrera au paradis. Donc, pour pouvoir bénéficier de l'entrée au paradis quand on prononce cette parole, il faut le faire avec un cœur pleinement convaincu. En d'autres termes, le doute annule la parole « La ilaha illallah » C'est donc une condition indispensable lorsque l'on prononce cette parole d'être pleinement convaincu. D'être pleinement convaincu que le seul à mériter l'adoration est Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pour les deux premières conditions de la parole La ilaha illallah. On reprendra lors de la prochaine intervention insha'Allah ta'ala pour les compléter. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك